Chapitre 10. Éprouvé, Paul rejoignit sa fille et David Esquimet sur le parking de l'hôpital. Elle était appuyée contre la voiture, lui face à elle, les bras autour de sa taille. David n'avait pas un physique désagréable, se vêtait toujours correctement et avait développé un sens aigu des affaires, le business de la mort rapporté depuis des lustres dans la circonscription. À la connaissance de Paul, il vivait dans l'appartement à l'étage au-dessus de son fonds de commerce. Pratique pour aller travailler, un escalier à descendre et il plongeait directement dans le bain, pour ainsi dire. David embrassa sa compagne, adressa un bref salut aux gendarmes et retourna dans la morgue d'un pas vif. Paul attendit d'être seul avec sa fille. « Ça me dérange qu'il assiste aux autopsies. »
« Tout te dérange dès qu'il s'agit de David. »
« Ce n'est pas son job, et il n'a pas à avoir accès aux éléments d'enquête. Un de ces quatre, je mettrai les pieds dans le plat pour rétablir les règles. Les gendarmes dans les morgues et les pompes funèbres auprès de leur cercueil. » Louise ne releva pas. Son père était plus raide que la justice elle-même. Elle préféra changer de sujet.
« J'ai eu Martini au téléphone. Ils ont levé le camp depuis une heure. Ils n'y voyaient plus rien. Ils n'ont rien trouvé sur les berges ou dans les environs de la scène de crime. Ni armes, ni douilles, ni chaussures, ni pierres ensanglantées. L'usine et la station d'épuration ont fermé hier à 19h. Il n'y avait personne sur place cette nuit. »
Paul ne répondit rien. Victime anonyme, pas de témoin, la poisse. Il déposa les scellés dans le coffre avec précaution. Une fois au volant, il observa sa fille. La tête appuyée contre la vitre passager, elle était ailleurs. « Tu peux dormir à la maison si tu veux. »«
Ça va aller. Je ne suis plus une gamine. Et j'ai un homme, je te signale. David me rejoint à l'appart ce soir. »
Je disais ça pour qu'on mange ensemble, qu'on discute dans un endroit plus chaleureux que cette voiture. Une autopsie, ce n'est pas un acte anodin. C'est une recherche de vérité destructrice, et ça fait mal. Même pour moi, tu peux me croire. Ce genre de meurtre, ça court pas les rues, surtout ici.
Ça, j'avais remarqué.
Hormis les poivrons, les tolards et les cambrioleurs. Et c'est très bien ainsi. Alors ces crimes de sang, parfois, on peut avoir besoin d'en parler, et pas juste à un type qui embaume des cadavres à longueur de journée.
Un type? J'ai des sentiments pour ce type, figure-toi. Et il n'embaume pas à longueur de journée. Il a aussi des employés.
Super. Elle souffla sur ses mains glacées. Paul avait tourné les boutons à fond, mais il serait arrivé avant d'être réchauffé par le système de ventilation. Julie Moscato était ta meilleure copine, dit-il. Vous passiez des soirées chez l'une, chez l'autre, vous étiez toujours ensemble. Personne ne la connaissait mieux que toi. Est-ce que... ce corps, ça pourra être elle?
Ça fait 12 ans, papa. Que veux-tu que je te réponde? Je n'en sais rien. Mais t'étais là comme moi. T'as vu ce qu'Andrieux lui a sorti de l'estomac? Cette pièce d'échec, ça ne peut quand même pas être un hasard. Julie adorait ce jeu.
Je sais. Elle resta muette une poignée de secondes, fixant les bandes de signalisation avalées sous les roues. Le cadavre pourrait avoir son âge. Peut-être que pendant tout ce temps où elle a disparu, où on l'a droguée, tatouée de force, elle était enrôlée dans un circuit de prostitution. L'ordure qui l'a kidnappée à l'époque s'est payée le luxe de revenir aux sources pour la tuer et nous la livrer. Qu'est-ce qu'on en sait? Elle continuait à fixer l'asphalte qui défilait, en forte pente, le long du cimetière. Les phares éclairèrent les croix situées sous les ifs. Ça et là, des bougies solaires essoufflées veillaient sur les tombes. Louise lorgna vers le fond obscur où reposait sa mère.
« Le plus étrange, c'est la présence de Gabriel Moscato, » ajouta-t-elle. « Ça fait 8 ans qu'il a disparu de la circulation, et il réapparaît ce matin comme par enchantement. Il semblait complètement confus, perdu. En arrivant sur la berge, il était persuadé qu'il s'agissait de Julie, avant même de voir le corps. »
Paul passa devant le club de tennis, mit son clignotant et s'engagea sur le parking de la brigade. Louise habitait l'un des logements de fonction. Un 2 pièces dans une barre grise et rouge de 2 étages à donner le cafard, mais pratique. La plupart des gendarmes vivaient sur place avec leur famille. À plusieurs reprises, Paul avait vu David Esquimet entrer et sortir de là. Les deux tourtereaux ne tarderaient pas à s'installer ensemble. Il récupéra les scellés, jeta un œil du côté d'un cube de ciment aux allures de préfabriqué à gauche du bâtiment principal. On le surnommait le Blockhaus. C'était en fait leur laboratoire de police scientifique qui prenait en charge les analyses simples des traces ADN et papillaires. Le labo est fermé. Je leur transmettrai les scellés demain matin pour une expertise à faire passer en priorité. J'enverrai les balles et les tamponnages de poudre à Écully. Je vais aller mettre tout ça au coffre pour l'instant. On saura vite si c'est Julie Moscato ou pas, et si son salopard d'assassin est fiché. Il y en a un, de salopard sur Saga, avança Louise en portant deux sacs. Je suppose que tu penses à Eddie Lecointre. Pourquoi on n'est pas déjà allé le voir? Lui poser deux, trois questions sur son emploi du temps la nuit dernière, par exemple? Parce que l'enquête commence à peine. Attendons l'ADN, d'accord? Ça ne sert à rien de se précipiter et d'aller frapper à toutes les portes. Certes, Lecointre a un passé peu reluisant, mais il a purgé sa peine, et on n'a pas pu découvrir ne serait-ce que l'ombre d'un indice au moment de la disparition de Julie. Chaque chose en son temps, et je n'ai pas envie de me mettre le juge Cassoret à dos. On a plutôt de bons rapports tous les deux actuellement, alors ne brisons pas la magie. Faut toujours prendre son temps avec toi. Tout est lent. C'est pénible. Ce n'est pas moi qui suis lent. C'est la justice. Paul soupira. Sa fille n'était pas encore usée par la routine. Elle avait encore la fougue des jeunes années et voulait brûler les étapes. « Il y a un truc qui m'interpelle, un truc qu'a constaté le légiste, » fit-elle. « Quoi encore ?»« La victime n'a pas salivé sur les chaussettes. Ça voudrait dire que l'assassin les lui a fourrées dans la bouche après la mort. À quoi ça sert de bâillonner une fille qui ne pourra plus hurler ?»« Ton idée ?» Tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait souvent pas de logique en matière criminelle. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y en a une, au-delà du meurtre brutal. On a voulu nous faire croire qu'on avait bâillonné cette femme pour l'empêcher de crier pendant qu'on la violait et mettait une branche en elle. Elle leva l'un des scellés. J'ai vu les chaussettes, elles n'étaient pas abîmées ni sales. Ça veut dire que la victime n'a pas couru avec. C'est bien l'assassin qui les avait sur lui. Il avait prévu de les mettre dans la bouche de sa proie après l'avoir violée et tuée. Autrement dit, il avait mûrement réfléchi son acte. Et donc la logique là-dedans? Je ne sais pas. Mais il me semble que lorsque tu violes et fracasses la tête de quelqu'un, tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu agis à l'instinct et une fois que c'est fait, tu penses surtout à t'enfuir, pas à récupérer les douilles. D'autant plus qu'il devait commencer à pleuvoir des oiseaux. T'imagines la scène? La logique derrière l'utilisation de cette paire de chaussettes, c'est à nous de la décrypter. Mais une chose est sûre, l'assassin n'a pas paniqué.
La décrypter, ouais. Comme dans un petit fichu épisode des experts. Tu vas vite comprendre que la vie, ce n'est pas ça, ma grande. Des gens tuent, d'autres meurent. Et nous, on est entre les deux comme des cons, des pions, ou même des fusibles, je te laisse choisir. On essaie de mettre les bonnes choses dans les bonnes cases, mais... même avec la meilleure volonté du monde, ça ne marche pas toujours. À 21h passées, la brigade ressemblait à la morgue qu'il venait de quitter. Le gendarme de garde les salua. Les néons éclairaient des couloirs peints en beige sale, avec un sol en linoléum crème qui couinait sous les semelles et se décollait au seuil de chaque bureau. Ça sentait le produit ménager et le bois moisi. La main sur une poignée, Paul se tourna vers sa fille. « Merde, Louise! T'aurais pu être avocate à Lyon ou avoir n'importe quel travail ailleurs que dans ce trou à rats. T'avais toutes les capacités pour ça. Pourquoi t'es venue ce matin? Et pourquoi t'as voulu voir une femme se faire sortir les organes du bide?
Papa, s'il te plaît.
Pourquoi tu t'es amouraché d'un vendeur de cercueils? Pourquoi t'es pas parti de Saga quand on avait l'occasion? Je t'aurais aidé. J'aurais tout fait pour que tu t'épanouisses, tu le sais. Y a rien ici. Tu ne vas quand même pas faire ça toute ta vie comme ton vieux père. »
Elle lui plaqua les scellés dans les mains.
« Je suis fatiguée. À demain. »
« Et pourquoi tu ne réponds pas à mes questions, bon sang? Pourquoi on n'a jamais pu parler, tous les deux ?»
Elle disparut dans le couloir. Sans bouger, il attendit le claquement de la porte d'entrée dans le couloir froid. Ses rapports avec Louise ne s'arrangeaient pas. C'était même de pire en pire. La mettre dans son équipe en espérant se rapprocher d'elle avait peut-être été, en définitive, une monumentale erreur.